Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, c'est la semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics en Ille-et-Vilaine. Interview en amont d'une présentation de la plateforme Artist Forever qui a été lancée par 40 mètres cubes. De la musique dont une nouveauté, un retour sur la projection au champ libre d'un diaporama autour du remembrement. Et puis recommandation, c'est le prochain mardi de l'espace des sciences. Bienvenue dans L'Arène. Tous les jours, on commence avec l'info du jour que je retiens pour vous et qui peut aujourd'hui intéresser les auditeurs à la recherche d'un emploi. Du lundi 9 au vendredi 13 octobre, Pôle emploi, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Fédération française du bâtiment et la Fédération nationale des travaux publics organisent ensemble la troisième semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur du BTP, c'est l'un des premiers employeurs de France avec 1,2 million de salariés en France au sein de 420 000 entreprises. Et puis on nous met en avant une diversité de métiers dans ce secteur et de nouveaux besoins en lien avec la transition écologique. Pour mettre en lumière ces métiers, plus de 1000 événements sont organisés sur l'ensemble du territoire durant cette semaine, 60 à l'échelle de la Bretagne, des job dating, visites de chantier, découvertes des métiers et des formations à destination des demandeurs d'emploi, personnes en reconversion ou encore des jeunes en train de choisir leur orientation. En Ille-et-Vilaine, un forum de recrutement est organisé mardi 10 octobre à 14h du côté de Pôle emploi Rennes-Est. Jeudi 12, place à une grande boucle du réemploi toujours à Rennes. Vendredi 13, visite de chantier cette fois du côté de Saint-Malo. Et puis les 16 et 20 octobre, les pôles emploi de Redon et Combourg organisent des sessions de détection de potentiel. En gros, des entretiens et exercices pour confirmer le choix des candidats. Pour plus d'informations sur cette troisième semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics, eh bien rendez-vous en ligne sur pôle-emploi.fr. Allez, après cette info du jour, on poursuit avec l'interview du jour. Stéphanie Lecam et Patrice Goisduf, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ensemble, on va annoncer une présentation, la présentation d'une plateforme de formation pour artistes et auteurs, auteuristes, qui est organisée au Tambour mardi 10 octobre à 18h. D'abord, les présentations. Patrice Goisduf, vous êtes co-directeur du Centre d'art contemporain rennais 40 mètres cubes, qui est situé en plein centre de Rennes, avenue Sergent Maginot. On redit peut-être un mot sur ce lieu, ce qu'on peut y découvrir en ce moment?
Donc 40 mètres cubes est un centre d'art contemporain labellisé centre d'art d'intérêt national. Donc moi, je le co-dirige avec Anne Langlois. Un centre d'art a pour vocation à montrer la création contemporaine dans toutes ses formes et la plus expérimentale qu'il soit, mais aussi à une responsabilité, on va dire, sociale et économique, c'est d'aider les artistes à peut-être se former, sortir de la précarité, leur proposer des situations d'emploi et autres. Donc le centre d'art a dans ce cadre-là plusieurs métiers, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien de la production d'expositions, de la commande d'œuvres d'art dans l'espace public dans le cadre de programmes spécifiques et aussi à de nombreux programmes de formation. Voilà un petit peu pour les missions du centre d'art. Actuellement, on a une exposition en montage qui sera vernie justement ce vendredi de Stanislas Paruzel, qui est un jeune artiste qui a notamment suivi des formations à 40 mètres cubes et notamment la formation longue Générator.
Stéphanie Lecam, vous avez plusieurs casquettes. Votre boulot, c'est juriste. Côté enseignement et recherche, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Rennes 2. Vous dirigez l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest. Et enfin, vous dirigez la Ligue des auteurs professionnels. C'est un syndicat finalement assez récent, là, cette Ligue des auteurs professionnels.
Oui, tout à fait. La Ligue des auteurs professionnels, c'est un syndicat qui est né il y a 5 ans et qui réunit aujourd'hui 2550 membres auteurs et autrices du livre, mais qui peuvent aussi être en pluriactivité, qui peuvent par exemple être scénaristes pour l'audiovisuel ou pourquoi pas artistes visuels. Donc c'est principalement des auteurs et autrices du livre, c'est comme ça qu'on les saisit, mais qui sont souvent quand même professionnels et en pluriactivité.
La plateforme qu'on présente aujourd'hui, artistforever.fr, elle a été développée par 40 mètres cubes, mise en ligne en 2023, je crois que c'était au printemps, c'est bien ça ?
C'est bien ça, en mars-avril 2023.
Et alors pourquoi ces 40 mètres cubes qui se saisit de cette question, Patrice Goisduf ? C'est parce que vous aviez déjà un rôle justement d'organisme de formation ?
C'est notamment pour ces raisons et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas des acteurs qui se saisissent pour créer des outils, produire des nouvelles façons d'expérimenter la formation, le secteur privé ne le fera pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pas un secteur très capitalistique, même si c'est libéral, il y a très peu d'argent à se faire. Donc du coup, les OF, les organismes de formation privés, ne vont pas sur ce secteur. Donc c'est pour ça que je parlais bien de responsabilité socio-économique des différents acteurs publics de la filière des arts visuels.
Artist Forever, c'est une plateforme de formation à destination donc des artistes, qu'ils soient étudiants ou déjà diplômés, ou j'imagine pas diplômés pour certains aussi. Une formation plutôt sur le volet, en tout cas non artistique, non créatif, dans le quotidien d'un artiste. Il est question de comptabilité, de droit. C'est aussi parce que c'est peu, voire pas enseigné en formation qu'il y a ce besoin-là aujourd'hui.
Disons que on ne rentre pas sur les métiers techniques parce que effectivement ils sont très très bien enseignés dans les écoles d'art. Les autres formations plus techniques, juridiques, plutôt administratives et juridiques, sont enseignées dans les écoles d'art, mais à partir du moment où les étudiantes ne sont pas confrontés à des problématiques professionnelles, on va dire qu'ils ont peut-être du mal à intégrer des données qui sont complexes et c'est peut-être pas le bon moment finalement pour transmettre ce genre d'informations.
Stéphanie Lecam, des choses à ajouter ?
Oui, parce que effectivement, moi en tant que maître de conférence à l'université Rennes 2, je remarque que souvent les étudiants sont totalement dépourvus de connaissances et d'aptitudes, par exemple au sujet de la protection sociale ou au sujet des règles qui encadrent leurs contrats. Et donc, on le voit aussi côté Ligue des auteurs professionnels où les artistes auteurs autrices qui sont déjà en profession sont vraiment en demande pour monter en compétences. Et quand la Ligue lance un petit atelier de formation pour 15 personnes, pour tout vous dire, les places, elles sont pré-réservées en moins d'une journée, ce qui montre qu'il y a un vrai besoin de formation qui est exprimé par les artistes auteurs et autrices pour toutes les questions de contrat, les questions de protection sociale, et puis peut-être aussi simplement comprendre l'écosystème dans lequel ils vont s'apprêter à entrer en carrière, parce qu'il y a tellement d'acteurs qu'on s'y perd, et l'idée c'est vraiment d'identifier voilà, qui fait quoi, à quel moment je vais pouvoir avoir besoin de telle structure ou tel autre organisme. Et donc je crois que c'est un petit peu du côté de la Ligue des auteurs professionnels qu'on a identifié les besoins et c'est la raison pour laquelle on souhaitait être partenaire de cette plateforme très ambitieuse et extrêmement singulière dans sa façon de concevoir les formations.
Trouver les financements et partenaires adaptés à son projet, comprendre et négocier un contrat ou encore gérer l'administration et la comptabilité de son activité, ça fait partie des sujets de formation qu'on retrouve proposés donc en ligne sur artistforever.fr, des formations qui sont payantes. C'est quoi l'ambition sur le territoire visé ? C'est vraiment à l'échelle nationale, même si donc 40 mètres cubes est un acteur rennais ?
Effectivement, notre ambition est bien de proposer une offre au niveau national, mais je signale qu'il y a une métropole et des territoires ultramarins. Et le digital permet aussi de proposer une offre de formation qui touche notamment tous les territoires ultramarins qui sont extrêmement dépourvus de cette offre-là. Donc cette ambition, elle est bien de toucher tous les territoires français.
Avec
et
donc,
peut-être un peu plus loin aussi de toucher des territoires qui sont francophones.
Avec des contenus donc qu'on retrouve pour se former en ligne, c'est l'avantage. Ça permet aussi de s'adapter au mode de vie des artistes, pour certains nomades ou qui n'ont pas en tout cas de lieu fixe pour travailler. Stéphanie Lecam, j'ai une question pour la directrice de la Ligue des auteurs professionnels que vous êtes. Les auteurs et autrices, ils font partie du public visé par cette plateforme, peut-être avec une particularité, c'est que... Bon, une grande partie des auteurs sont un peu en situation de précarité. J'ai le chiffre pour 2018, mais qui a sans doute dû bouger, entre 40 et 53% des professionnels qui gagnaient moins que le SMIC, et des auteurs qui, pour le coup, ne sont pas forcément formés. Il y a une grande partie d'autodidactes, je ne me trompe pas.
C'est exactement ça. C'est plusieurs constats qui ont été établis dans plusieurs rapports ministériels. Je pense notamment au rapport Bruno Racine, l'auteur et l'acte de création, qui pointait ces problématiques de précarisation et ces problématiques, je dirais, de formation incomplète ou pas adaptées aux besoins des auteurs et autrices professionnelles. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer d'observer la manière dont on pourrait apporter ces aptitudes, ces compétences complémentaires qui permettraient aux uns et aux autres tout simplement d'être plus fort dans un rapport contractuel. Quand on ne sait pas lire un contrat, on le signe sans savoir que potentiellement certaines clauses peuvent engager notre sécurité juridique. Là, l'idée, c'est vraiment de les rendre plus forts dans ces rapports contractuels et puis surtout de lutter contre un autre phénomène qu'on a pointé dans le rapport Racine, c'est le problème du non-recours aux droits sociaux. Et c'est vrai qu'à défaut de savoir quelle est notre protection sociale, on ne recourt pas aux prestations sociales qui sont pourtant dues à partir du moment où on contribue comme un professionnel. Et donc, c'est vraiment sur ces deux aspects, relations individuelles contractuelles et protection sociale, qu'on a envie d'avancer et d'apporter ce soutien précieux à nos membres.
Est-ce qu'il y a d'autres erreurs courantes lorsqu'on est auteur et peut-être débutant du point de vue que ce soit comptable, juridique ou administrative? Erreurs courantes qui peuvent revenir peut-être sur le sujet des droits d'auteur qui est un peu dans vos thèmes de prédilection, Stéphanie Lecam?
Moi, ce que je vois, c'est surtout une incapacité à comptabiliser et à estimer la valeur de son travail. C'est assez fou, mais quand on parle de ça avec les étudiants sortants, ils sont bien incapables de faire un devis parce qu'ils sont bien incapables d'identifier ce que coûte le travail de création, ce que ça représente, par exemple, d'avoir une communauté sur Instagram composée de 10 000 followers et comment est-ce qu'on peut amener ça dans ses échanges avec son futur éditeur ou avec son futur diffuseur. Donc, c'est vraiment toute cette connaissance-là que nous-mêmes, d'ailleurs, on a bien du mal à cerner, hein, et c'est la raison pour laquelle il y a un pont à faire avec l'université également. Et c'est pour ça que je porte aussi ce projet en tant que directrice de l'Institut du Travail, qui est une composante à part entière de l'Université Rennes 2, qui a pour objectif la formation et la recherche en sciences sociales du travail. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un pont entre le monde universitaire, qui a besoin des auteurs et autrices, mais aussi de ne plus enseigner les matières sans avoir comme objectif de leur permettre d'obtenir ces aptitudes, ces compétences pour se professionnaliser. Et puis en même temps, les auteurs et autrices, ils ont besoin de ce monde universitaire, le droit, l'économie, la sociologie, parce que ce sont des garants d'une meilleure appréhension de leur métier.
Artistforever.fr, c'est donc une plateforme en ligne depuis le printemps sur laquelle on peut trouver donc des contenus pour se former en ligne, des formations en autonomie ou accompagnées qui sont payantes, là je l'ai sous les yeux, sur des tarifs entre 120 et 560 euros pour à chaque fois 14 heures de formation. Il y a aussi une partie des ressources qui sont en accès libre avec notamment le regard des premiers concernés, à savoir les artistes eux-mêmes, auteurs, autrices, qui livrent leur point de vue.
Je vais juste déjà rappeler que les formations qui sont proposées sur le site sont au prix de 60 euros pour les bénéficiaires du RSA, ce qui est extrêmement, on va dire, entre guillemets, concurrentiel. Il n'y a pas de formation en France à ce prix-là. Et si les prix sont extrêmement bas, c'est aussi parce que on s'adresse à un public qui est très précaire et qui a de très peu de revenus. Concernant les contenus, donc effectivement, on a aussi valorisé nos formations en présentiel, donc qui sont beaucoup plus chères, puisque le nom l'indique, il faut qu'il y ait un formateur qui se déplace et les coûts sont différents. Et puis, la plateforme propose de nombreuses ressources gratuites sous forme de tutoriels ou de vidéos de professionnels qui sont aussi divers que des artistes, des galeristes, des commissaires d'exposition, des écrivains bientôt, des syndicalistes, des représentants d'institutions, musées, FRAC, centres d'art, des représentants de réseaux territoriaux et nationaux, des directeurs de centres nationaux comme le CNAP. Enfin, l'idée est d'avoir tout un panel de professionnels qui soit représentatif de la diversité des métiers et aussi de la diversité des espaces de parole. C'est-à-dire que un directeur de FRAC ne va pas regarder une filière de la même façon qu'un artiste ou quelqu'un qui travaille au CNAP, par exemple. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette diversité. Diversité et parité également, puisque je trouve que la plateforme, elle est aussi assez représentative des acteurs. Elle est assez féminine parce que on est dans un milieu aussi où peut-être il y a plus d'acteurs et de personnes de ce genre-là qui y travaillent. En tout cas, l'idée ou l'ambition de cette plateforme, c'est bien de décortiquer tout le système ou les filières. En tout cas, déjà celle de l'art, des arts visuels, sans doute après celle du domaine du livre, du design, et peut-être aussi aller sur la photographie. L'ambition est assez élevée, mais il me semble que l'enjeu est important pour les artistes auteurs.
Vous avez cité le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, et le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Et donc, on peut retrouver là, parmi ces contenus qui sont gratuits en ligne, des parcours d'artistes, mais on peut aussi en apprendre plus sur les politiques culturelles territoriales ou encore sur le choix des options fiscales pour son activité. Je vous représente Stéphanie Lecam, vous êtes juriste, maîtresse de conférence à Rennes 2, directrice de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest et de la Ligue des auteurs professionnels. Patrice Goisduf, vous êtes le co-directeur du Centre d'art contemporain rennais 40 mètres cubes et on vous retrouvera au Tambour à Rennes mardi 10 octobre à partir de 18h pour une présentation plus dans le détail de cette plateforme Artist Forever. Pour plus d'informations sur ce rendez-vous, il y a le site culture.service.unif-rennes2.fr. Merci beaucoup.
Merci. Rise comes down, down at the canal. The morning's gone, the grass is warm, the stars are all long gone.
Canal, Dead Moon, November sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à Canal B, et à retrouver sur un album éponyme sorti le 29 septembre chez Unday Records. C'est le premier disque pour Dead Moon November, qui est plus connu comme guitariste jazz, un Britannique. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, soit branché sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr, ou peut-être sur le DAB, la radio numérique terrestre, puisque Canal B a rejoint ce DAB Plus depuis le printemps. On continue cette émission avec le reportage du jour. Un reportage réalisé dimanche 8 octobre au Champ Libre, au moment de la projection d'un diaporama sur le remembrement. Une production de Nicole et Félix Le Garec, photographe et documentariste. Production tournée dans les années 70 en Centre-Bretagne. Le remembrement, politique d'État qui vise à regrouper et agrandir les parcelles des agriculteurs, bat alors son plein et des mouvements de résistance se déploient. Rencontre avec Léandre Mandard, doctorant en histoire qui planche en ce moment sur une thèse à ce sujet. Et puis avec l'association des amis de Nicole et Félix Le Garec, qui tient est d'ailleurs ouverte à l'idée d'autres projections de ce diaporama. Et pour habiller le reportage que vous allez entendre, c'est le morceau « Madame la colline » de Gilles Servat.
En effet, le remembrement autoritaire mène des discordes dans les communes, à en voir très brivant, Plounévé et ailleurs. S'il était permis de faire des échanges à l'amiable, cette discorde se terminerait assez vite. Parce qu'il n'est pas possible à des ingénieurs, des génies ruraux, en étant juge et parti, d'essayer de distribuer, d'échanger aux agriculteurs des parcelles dont ils ne connaissent vraiment pas la valeur.
Dans les prairies, l'herbe était si belle, et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le son sur le fond du puits.
On est au Musée de Bretagne, qui est partenaire de la restauration de ce diaporama qui va être projeté tout à l'heure. Et voilà, on est à quelques minutes de la présentation, une restitution aussi au public d'un diaporama qui est resté stocké pendant presque 30 ans et non diffusé pour des raisons techniques en particulier. Erwan Malik, président de l'association des amis de Nicole et Félix Le Garec. L'association s'est créée en 2018, un peu à la demande de Nicole et Félix Le Garec, qui s'inquiétaient de l'avenir de leur fonds d'atelier, notamment photographique, mais aussi il y a des choses écrites et tout ça, parce que le travail sur les films est fait par la Cinémathèque de Bretagne. Et donc, ils avaient vu qu'un travail se faisait à Douarnenez sur le fonds Michel Tersicale, c'est-à-dire c'est depuis que Michel Tersicale est décédé, le fond complet de Michel Tersicale, photographe aussi, qu'avait été l'apprenti de Félix et Nicole. Donc voilà, on a fait ce travail-là et on s'est donné pour vocation, on n'est pas ayant droit des photos, on s'est donné pour vocation de valoriser, déjà de scanner, de recenser, et puis après de classer, de documenter, et d'essayer de faire qui des expositions, qui des publications, qui des spectacles ou des projections, c'est-à-dire tout ce qui peut faire qu'on valorise le travail de Félix Le Garec et de Nicole, qui sont des photographes soit, qui font des films aussi après, dont le fameux « Plogoff des pierres contre des fusils ». Mais aussi qui sont un peu journalistes, un peu chroniqueurs, et surtout à l'écoute d'événements sociaux ou d'événements politiques, mais aussi des pardons dans le pays bigoudin, parce qu'ils habitent là. Et c'était pas leur métier, entre guillemets, au départ. Ils étaient photographes, ils faisaient des photos de communion, de mariage et autres. Et ils partaient par désir de faire autre chose dans un endroit où on les appelait.
Vous êtes combien dans l'association? Et puis vous êtes basé où, là, pour mener ce travail dont vous parlez?
Dans l'association, on doit être une quarantaine d'adhérents. Et après, dans les gens qui s'agitent un peu toute l'année, on doit être une dizaine à peu près. Et l'association est basée au Port-Musée de Douarnenez. Voilà, c'est là qu'on scanne les photos. Et puis après, on va dans les endroits où il faut, où les photos ont été prises, pour tenter de les documenter. Et tout en parlant à Félix et Nicole, mais bon... pour ce qui va être montré cet après-midi, ça date d'il y a 50 ans. Donc ils ont quelques petits oublis de qui est dessus, à quel moment et précisément. Donc on fait le travail de documentaire à partir d'articles, à partir et surtout à partir de témoignages oraux directement, quoi.
Comment on présente le diaporama, la guerre des ou du
remembrement ? Non, c'est le remembrement, en fait. Il n'y a pas marqué guerre, du tout. Comment dire ? Ben, d'abord, un diaporama, peut-être par rapport à vos auditeurs ou éditrices. Un diaporama, c'est des diapositives et une bande-son magnétique. Et on les met dans des bacs circulaires. Et le principe pour les diaporamas de Félix et Nicole, c'est qu'il y a une diapo d'un des bacs qui passe, qui s'enlève, et c'est une diapo de l'autre bac qui passe, et il y a des tops qui sont mis sur la bande magnétique, c'est le top qui passe à la bande magnétique qui déclenche la diapo, quoi. Donc là, on est sur un diaporama de numérisé maintenant, qui est sur une durée de 30 minutes. Et ce qui est raconté, c'est en fait, ils ont eu un coup de fil, un lanceur d'alerte, on pourrait appeler ça, à l'époque, qui s'appelait Loïs Robarts, qui est une personnalité connue en Bretagne, notamment parce qu'il a relancé les festounos. Il était basé à Poulaouen, mais il était aussi attaché au territoire, à l'environnement et tout ça. Donc il a dit, Félix et Nicole, il y a un truc pas sympa qui se passe dans le centre Bretagne. Venez faire un tour, prendre des photos, enregistrer les gens, parce qu'il savait faire ça. Et le diaporama parle d'une période de crise, en fait, on peut appeler ça comme ça, où les relations étaient devenues très tendues entre la population d'une même commune, vis-à-vis de la mairie, ou même vis-à-vis d'agriculteurs entre eux, et où ça partait tellement en crise sur les choix qui étaient faits par l'administration, parce qu'il parle beaucoup des géomètres. Donc c'est à ce moment-là où il y avait des manifestations qui avaient lieu à Trébrivent. Je crois qu'il y a une photo de manifestation où ils sont 150 personnes dans une commune qui en fait 500, même pas peut-être. Et puis pareil à Plonévé-du-Fou, qui est dans le Finistère, qui est une commune plus grande, mais où là il y avait du drame, il y avait des grèves de la faim, enfin il y a des invectives vis-à-vis de l'administration de l'agriculture, enfin du ministère de l'Agriculture, mais aussi des élus. Voilà, c'est à ce moment-là qu'ils débarquent et qu'ils tendent leur micro et que Félix fait ses photos. Et ça donne un mélange de personnes de l'administration agricole, entre guillemets, qui parlent, avec un cynisme qui est assez incroyable, et des hommes et des femmes qui témoignent sur différentes choses, qui les émeuvent, qui les contrarient, voire on les sent attristés, enfin plus qu'attristés. Certaines femmes qui parlent, on a l'impression qu'elles vont pleurer.
On est dans les années 70, ouais. C'est peut-être là qu'il faut dire que le remembrement, il a déjà commencé depuis un moment, sujet sur lequel vous menez un travail de thèse, Léandre Mandard.
Oui, alors le remembrement, en fait, tel qu'il s'est déployé à cette période-là, il a été mis en place par une loi de 1941, donc qui était une loi en fait, du gouvernement de Vichy. Léandre Mandard, doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po, à Paris. Mais je vis en Centre-Bretagne. Contrairement à ce qu'on peut penser des fois, le gouvernement de Vichy était, en matière d'agriculture, très modernisateur. En fait, malgré toute la propagande traditionnaliste, tout ça, à laquelle on l'associe. Mais en tout cas, il y a cette loi de 41 qui ensuite est appliquée en Bretagne, alors qu'elle est d'abord déployée dans les régions d'open field et de grandes cultures, dans le bassin parisien, par exemple, autour où il n'y a pas de bocage, où il n'y a pas de haies, et donc où c'était très facile à mettre en place. Mais à partir des années 60, eh bien le remembrement est appliqué également dans les régions de bocage, et notamment en Bretagne, où à l'époque on a une révolution agricole absolument foudroyante hein, à ce moment-là. Et donc, ce qui fait que les deux tiers des terres agricoles en Bretagne, en fait, ont été remembrées entre les années 60 et 80, et avec un impact considérable sur le bocage, puisque, alors ça, à l'échelle française cette fois, mais il y a en fait, depuis 1950, 70% des haies qui ont disparu.
Parce que très concrètement, le remembrement, c'est virer les haies pour agrandir les parcelles, au départ avec l'idée de pouvoir faire passer les engins agricoles qui arrivent.
Voilà, tout à fait. C'est une politique de modernisation agricole qui consiste à rendre obligatoire sur une commune l'échange des parcelles entre les propriétaires et donc pour agrandir les champs et les regrouper autour des exploitations et de façon surtout à à adapter la structure foncière, la structure des parcelles à la motorisation, au tracteur qui arrive à ce moment-là, et de façon aussi à intensifier la production agricole. Et ça a aussi été une manière finalement de marginaliser, d'écarter aussi toute une frange de la paysannerie, de petites fermes qui n'avaient pas la volonté ou la capacité de se moderniser. Disons que le remembrement s'est fait en fait aussi, il a favorisé surtout les agriculteurs les plus modernistes et les plus gros.
Tout ça est détruit en vitesse quand arrive le bulldozer. Tout ça est détruit en vitesse quand arrive le bulldozer. À la place de toutes ces richesses, on déroule du fil de fer et l'on s'enfuit.
Comment ça a été vécu par les habitants qui ont assisté à ces opérations de remembrement ? Est-ce qu'on peut parler de regard partagé entre, on imagine, une forme d'enthousiasme pour certains et de la douleur pour d'autres ?
Alors oui, il a été accueilli de manière assez différente suivant les endroits aussi et suivant les intéressés. Parce qu'en fait, il y a un remembrement qui fait toujours des gagnants et des perdants. D'ailleurs, il y a dans le diaporama l'ingénieur en chef du génie rural de l'époque des Côtes d'Armor qui dit qu'un remembrement ne peut pas être juste. Il n'a pas vocation à être juste. Et donc, il y a une forme d'imposition d'un projet d'État aussi qui consiste à moderniser absolument l'agriculture pour aussi que la population paysanne aussi baisse pour que ensuite ça fasse de la main d'œuvre aussi pour l'industrie, que l'agriculture devienne un débouché pour tout type d'industrie aussi, industrie mécanique, tout ce qui tourne autour de l'agriculture moderne. Et donc, ça a été en certains endroits très mal accueilli et ça a entraîné des gros problèmes dans certaines communes, comme à Trébrivin, où il y a une grosse partie de la population qui s'est vraiment littéralement révoltée contre le remembrement. Alors, par plein de moyens, il y a des manifestations, ils ont envahi la mairie à un moment, et ils ont arraché les bornes qui étaient posées par le géomètre pour délimiter les nouvelles parcelles, pour retarder les travaux. Ils ont fait des recours en justice, que souvent ils ont perdu. Et finalement, le remembrement a fini par s'imposer par la force, puisque ce sont les gendarmes mobiles qui ont accompagné les bulldozers pour qu'ils puissent faire leur travail, in fine. C'est une histoire assez violente, quoi.
Le remembrement, ça a été un des éléments dans l'histoire de l'évolution du modèle agricole dominant, productiviste, intensif, etc. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui du remembrement ? C'est les paysages qui nous entourent, qu'on a peut-être oublié, en tout cas les plus jeunes générations, cette histoire-là derrière ?
Je pense que les gens, en effet, qui n'ont pas connu cette période-là... Les gens de ma génération, par exemple, que j'ai 29 ans, on a du mal sans doute à imaginer le paysage tel qu'il était à l'époque, parce que il était extrêmement différent. En fait, le bocage était beaucoup, beaucoup plus dense qu'il ne l'est aujourd'hui. On avait un réseau de chemins qui n'était pas le même. On avait beaucoup de pommiers dans les champs. Il y avait beaucoup plus de chemins creux. Il y avait aussi une biodiversité beaucoup plus présente. Et effectivement, le remembrement a complètement bouleversé ce paysage. Alors pour le coup, en plus, on a tendance à dire parfois que les changements qu'il y a eu dans l'agriculture dans les années 50, 60, 70 et tout ça, c'est que ça a été une révolution silencieuse. Il y avait un président de la FNSEA qui avait dit ça dans les années 60. Mais en fait, le cas du remembrement à Trébrivin montre très bien que ça n'a pas du tout été une révolution silencieuse. Et qu'il y a des gens qui ont résisté en fait à ce rouleau compresseur qui a été imposé dans bien des cas par la force, quoi.
Ce diaporama projeté donc ce dimanche au sein des Champs Libres, on imagine que ça peut être un élément de documentation quand on a un travail de thèse. Comment vous décririez la documentation que vous utilisez dans ce travail qui est toujours en cours ? Elle est riche ?
Alors il y a beaucoup beaucoup d'archives en fait qui sont disponibles. Alors des archives en fait administratives aussi qui sont produites lors du remembrement et auxquelles on peut accéder aux archives départementales par exemple en Bretagne, mais dans plein aussi aux archives nationales, parfois dans les communes aussi. Et il y a aussi un aspect important qui est le témoignage des gens en fait qui ont connu cette période-là et qu'il est précieux qu'il est important d'aller collecter de façon urgente parce que voilà les témoins disparaissent aussi. Et c'est ce travail-là aussi que j'ai réalisé à Trébrivent avec notamment Inès Liraud aussi, qui est journaliste et documentariste et qui prépare une bande dessinée sur le sujet du remembrement aussi. Et donc on a fait tous les deux ce travail de collectage sur la commune avant même que cette histoire de diaporama ressurgisse récemment.
Et c'est combien d'années une thèse ?
La moyenne, il paraît que c'est 5 ans l'histoire. Alors moi j'avais un contrat doctoral de 3 ans. Avec Sciences Po qui vient de se terminer là. Et je commence à écrire et j'espère écrire vite. Mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus facile. Ça demande beaucoup d'autodiscipline. Mais j'espère en tout cas en venir à bout et puis pouvoir après aussi
valoriser
ce travail et puis et le présenter au public et la confronter aussi à la mémoire des gens parce que c'est. Un récit, celui de l'histoire du remembrement, qui n'a pas été beaucoup écrit. En fait, il y a eu très peu d'études qui ont été consacrées. Il n'y a pas de livre, quasiment pas de livre d'histoire qui le traite de façon approfondie. Alors que c'est quand même un pan de notre histoire qui a marqué en tout cas la Bretagne.
Dernière question, ce diaporama, il est présenté dans une version restaurée, ça change quoi ? Comment a été mené ce travail-là de restauration ?
C'est dans une version restaurée parce que justement les diapos étaient restés stockés dans les carousels, donc il y avait un problème de reprendre les diapos, les scanner, les nettoyer, enfin voilà. Et on s'est dit, bon, si on veut vraiment le divulguer le plus largement, faire des séances ou des rencontres ou des débats ou je ne sais quoi d'autre, il faut passer à la version numérisée, quoi. Donc il a fallu rechercher la chronologie des diapos, même s'il y avait déjà un guide, mais bon, ils avaient été un peu mélangés. Donc on s'est adossé aussi à un travail avec Nicole et Félix Garec, qui se souvenaient de quelques trucs quand même. Ils avaient des notes de l'époque sur la construction. Ils avaient le nom surtout des gens, de certaines personnes qui étaient interviewées. Et Félix et Nicole sont généreux, entre guillemets, parce qu'ils découvrent le sens qu'a leur travail qui a 50 ans. Parce qu'on a une parole, comme l'a dit Léandre, qui n'a pas été entendue, écoutée ou divulguée largement et qui a été un peu oubliée. On se souvient des conflits vaguement. On se souvient que c'est pas un sujet abordé à table à une réunion de familiale parce qu'il peut y avoir des gens des deux côtés entre guillemets, mais on redonne du sens, je dirais même, enfin je sais pas si c'est un terme approprié, à une sorte de bon sens paysan parce qu'à travers ce qui est dit dans les propos de certains qui disent un fil de fer électrique ne remplace pas un talus, il coupe pas le vent, il permet pas à des oiseaux de se nicher, il permet aux insectes d'y être, et puis quand il y a une maladie dans un champ, la maladie passe dans le champ d'à côté vu qu'il y a qu'un fil électrique pour l'arrêter. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont dites dans le texte.
Pragmatique.
Oui, mais qui sont éclairants et qui rejoignent un discours de maintenant. Des gens qui se battent justement pour une reconstruction, pas que du paysage, mais aussi de l'organisation rurale, quoi. Et puis, sans parler, ils parlent de l'eau aussi. Et c'est important, par rapport à des générations plus jeunes, de restituer que les gens ne sont pas restés les bras creusés à voir les bulldozers travailler, quoi. Ils parlent d'une personne qui s'appelle l'écureuil. Alors, il dit pourquoi l'écureuil ? Parce qu'il se mettait dans les arbres pour empêcher les bulldozers de les faire tomber. Et c'est en plus une personne qu'on découvre dans les articles. Par la suite, hein, parce qu'il y a toute une collection d'articles sur cette période-là, que cet écureuil, enfin ce monsieur qui montait systématiquement, le maire de Trébrivent l'a fait interner à Plouguer-Nivelles dans un hôpital psychiatrique. Enfin, c'est pour montrer jusqu'où les choses se faisaient, et sa raison, c'était l'opposition au remembrement. C'était violent, quoi. C'était violent physiquement, aussi dans une commune, les gens se sont tournés le dos. Quoi.
Et ce remembrement qui mène à tant d'ennuis et à tant de frais se ferait beaucoup plus vite, à moins de frais, avec beaucoup moins de zizanie dans les communes, s'il était permis aux agriculteurs eux-mêmes de se faire des échanges entre eux.
S'enfuit, 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 j'entends taper le son sur le fond du puits.
J'étais un pays humble et beau, j'étais une terre nourricière. J'étais un pays humble et beau, des percherons, j'étais le berceau.
Ce n'était pas un pays facile, il fallait vouloir travailler, mais on était récompensé, et comme le cidre désaltéré. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. On était dans les chemins creux, sans lasser les amoureux, les rossignols des alentours, leur sifflaient des chansons d'amour. Avec les branches de sureau, les enfants faisaient des flutiaux. Existe-t-il un seul ruisseau qui n'ait pas fait tourner le moulin à eau? C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les haies ils ont arrachées. Toutes les collines ils ont rogné, toutes les mares ils ont bouché, mes verts prairies ils ont drainé, l'Europe verte m'a torturé. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. La terre d'ici c'est ma peau, et elle a tenu fermement. Elle s'envolera avec le vent, elle se dissipera dans l'eau. Et quand l'herbe aura disparu, de quoi vivront les troupeaux? Treilles, roches apparaîtront comme des eaux qu'on met à nu. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Braves gens que j'ai nourris, sous la contrainte m'ont trahi. Aujourd'hui ils me mortifient, à cause de l'Europe du profit. Mais un jour les fleurs pousseront, toutes les haies replanteront, et les pommiers refleuriront, sans sapin de pays percheront. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Mais gare à vous gens de Paris, car toute gloire est éphémère, et le pouvoir ne dure guère, les gens d'ici l'ont bien compris. Et alors à l'abri du vent, le perche et les percherons en liesse connaîtront l'éternelle jeunesse et vivront mille et mille printemps. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent.
Radar et son titre Remembrement sur Canal B. C'est un morceau qui m'a été conseillé par une journaliste de Splend il y a quelques semaines. Splend, ce média d'investigation indépendant et breton. Et un morceau qui tombe à point. Radar, c'est un groupe qui a été lancé dans les années 80 et qui joue un répertoire musical collecté dans le Perche. Le Perche, c'est ce territoire à cheval sur trois régions, la Basse-Normandie, le Centre et les Pays de la Loire. Vous êtes toujours dans l'émission d'info locale de Canal B, l'Arène. Si vous avez des actions ou événements à annoncer aux auditeurs sur Canal B, qu'il s'agisse d'événements organisés par votre association ou autre type de structure, tant que l'objectif n'est pas uniquement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reviens vers vous pour vous proposer une rencontre ici en studio sous forme d'interview, pourquoi pas à travers un reportage en venant vous voir sur le terrain. Il est aussi possible d'annoncer ces événements sous forme de recommandations, et c'est l'heure. produit chaque jour en fin d'émission, c'est le moment d'une courte recommandation, des conseils de choses à lire, à écouter, à voir ou à vivre. Et là, c'est le cas. Demain, mardi 10 octobre à 20h30, il risque d'y avoir du monde à l'Espace des Sciences à Rennes, qui accueille pour son mardi de l'Espace des Sciences, c'est un cycle de conférences en compagnie de scientifiques, eh bien, rien d'autre que la coprésidente du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Agir face au changement climatique, enjeu de transformation, c'est le thème qui sera exploré par l'invitée, Valérie Masson-Delmotte. Pour continuer à la présenter un peu, elle est aussi paléoclimatologue et directrice de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. En 2021, elle a publié un ouvrage, son titre « Quel climat pour vous, vos enfants, vos petits-enfants ?» Alors depuis le XXe siècle, le réchauffement planétaire il a atteint plus 1,1 degré Celsius, une augmentation inédite depuis plus de 2000 ans. Et malgré une action pour le climat qui monte en puissance, eh bien les résultats restent insuffisants et on constate encore des émissions mondiales records de gaz à effet de serre, avec une limite de plus 2 degrés qui va rapidement être hors de portée. Résultat de tout ça, les événements climatiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus sévères, sous l'influence humaine, s'il faut le redire. Alors comment les différentes régions du monde sont-elles affectées et quels sont les impacts sur les populations? Quels sont les futurs possibles et comment accélérer l'action face à ce changement? Élément de réponse, mardi 10 octobre à 20h30, en compagnie de Valérie Masson-Delmotte. Un rendez-vous qui est gratuit et à retrouver aussi sur la chaîne YouTube de l'Espace des Sciences. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.